Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Chacun maintient sa note. AA2 pour Moody's, la plus importante de ces deux agences. AA2, c'est la troisième meilleure note possible. Pour Fitch, c'est un double A-, quatrième cran le plus élevé. Et ces deux notes sont assorties de perspectives stables. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la dette française est considérée de qualité élevée, que le risque de défaut est très faible. La note des agences, rappelez-vous, détermine le taux auquel le pays emprunte. Plus elle est haute, plus il est bas.
Voilà, c'était hier soir à 23h30 au micro de France Info. Le couperet est tombé, la note de la France a finalement été maintenue par les agences de notation Fitch et Moody's. Un soulagement pour le gouvernement qui a tenté cette semaine de désamorcer l'annonce attendue d'une dégradation, synonyme de mauvais signal pour les marchés et de camouflet politique dans cette campagne des européennes. Pas de satisfecit pourtant. Bruno Le Maire assure que cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques. Il faut dire que la note, cette fois de l'agence Standard & Poor's, est attendue fin mai. Et pour atteindre les 3% de déficit en 2027, le ministre a dicté des objectifs. 10 milliards d'euros d'économies dès cette année, 20 milliards l'année prochaine. Faut-il s'attendre dès lors à des coupes sombres dans les politiques sociales, les retraites, l'assurance chômage? Début 2023 déjà, le gouvernement engageait une nouvelle revue des dépenses publiques. Quelques mois plus tard, Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, lançait le site « En avoir pour mes impôts ». Mais justement, où va l'argent? Moins de santé, moins d'école, moins de police, moins de justice. Depuis de longues années déjà, les citoyens se plaignent de l'état de dégradation de nos services publics. Pourtant, la France reste un des pays dont les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Comment expliquer ce hiatus? Faut-il augmenter les impôts pour garantir la qualité de nos services publics ou repenser la philosophie de ce qui doit être pris en charge par la nation? Bonjour Lucie Castet.
Bonjour.
Vous êtes co-porte-parole du collectif Nos Services Publics, par ailleurs chroniqueuse à Alternatives Économiques. Vous avez sorti justement un rapport l'année dernière sur l'état de nos services publics. Ça a été diffusé par l'éditeur Équateur Documents. Alors, on l'entendait à l'instant, Fitch et Moody's maintiennent la note de la France avec une perspective stable. Le gouvernement a peut-être senti le vent du boulet. Ces évaluations arrivent après une série de mauvaises nouvelles budgétaires, un abaissement de 1,4 à 1% de la croissance attendue cette année, un déficit à 5,1% au-dessus des 3 des critères de cohésion européens, une dette qui culmine à 111% du PIB contre 60% dans ces critères de cohésion. Du côté du FMI, on nous dit la France doit en faire plus cette année et dans les années à venir. Sur les 20 membres de la zone euro, seule l'Italie et la Slovaquie font pire. Comment vous analysez ce maintien de cette note ?
Bon, je pense que déjà, il est très important de rappeler que parler du montant de la dette en montant absolu n'a pas vraiment de sens. Et je pense que la note des agences qui vient de tomber hier soir l'illustre. En fait, la France est dans une situation assez proche des situations des autres pays de la zone euro. Ce qui compte, c'est de regarder comment la France s'endette. La France, elle s'endette en relatif par rapport à la situation des autres pays de l'Union européenne, des autres pays de la zone euro. Et en fait, la France aujourd'hui s'endette toujours très facilement quand elle émet des obligations. Par exemple, il y a plein d'investisseurs qui veulent acheter ces obligations. C'est des obligations qui se vendent très bien sur le marché secondaire, ouais. Etc. Les taux sont...
L'Allemagne empruntait sur 10 ans à 2,4 fin 2023 et la France à 3%.
Ouais, donc ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart est relativement faible. Et en fait, la question qui se pose, c'est la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire la capacité d'un État à rembourser sa dette. Par exemple, là, des facteurs comme le facteur démographique, est-ce que vous avez une population jeune ou une population plutôt vieille, compte beaucoup. Par exemple, en Allemagne, la population est globalement plus vieille et donc ça pose la question de la capacité de l'Allemagne à rembourser sa dette, alors que la France est dans une situation un petit peu plus favorable. Toutes ces questions se posent là. Donc, ce que je dirais, c'est que la dette n'est pas un mal en soi. Ce qui compte, c'est d'une part sa soutenabilité, je l'ai dit, et d'autre part, surtout, ce qu'elle vient financer. Et là, on va en reparler, et la question des services publics ici est majeure.
Elle est centrale, évidemment, mais dézoomons un peu, si vous le voulez bien. Le Portugal, dont la dette culminait à 133% du PIB il y a 10 ans, l'a ramené au-dessous des 100% l'an dernier. Le pays a même dégagé un excédent budgétaire historique de 1,2% du PIB en 2023, tout en augmentant ses dépenses publiques de 5%. Ok, c'est le Portugal. La Grèce attend un déficit contenu à 2,1% en 2023, à 1% cette année. L'Espagne a confirmé son engagement à revenir au seuil de 3% du PIB après 3,7% en 2023. Tous ces pays étaient ce qu'on appelait des « pigs ». Il y a quelques années, lors de la crise des dettes souveraines en Europe, c'est-à-dire des pays dont la trajectoire budgétaire avait complètement flambé. Pourquoi les autres y arrivent et pas nous ?
Alors déjà, encore une fois, la comparabilité entre les différents États est difficile. La comparaison est difficile. Il y a des pays, dont certains que vous avez cités là, qui ont fait des efforts massifs avec des conséquences vraiment délétères sur le fonctionnement de leurs services publics, dont je ne nous le souhaite pas.
La Grèce notamment.
Donc je ne nous le souhaite pas. Et des pays qui ont fait aussi des économies sur leur modèle de protection sociale. Voilà, c'est des choix extrêmement difficiles qu'il nous faut nous épargner à notre sens. La question, c'est plutôt quel cap on donne à nos finances publiques. Et la France est dans une situation qui est assez intéressante à cet égard, c'est-à-dire que s'agissant des dépenses publiques, dans les dernières années, on a mis des coups de gouvernail extrêmement brutaux. On a alterné soit des coups de rabot avec une tentative de réduction des dépenses publiques un peu aveugle, secteur par secteur, en lien notamment avec la revue des dépenses que vous mentionniez, et aussi, et ça c'est très important de le dire, des baisses massives de recettes, donc des baisses d'argent qui rentrent dans les caisses de l'État pour financer justement, y compris les services publics. Ces dernières années, ça a été particulièrement le cas. On s'est privé de recettes de manière massive.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, les impôts de production, ce qu'on appelle la CVAE, c'est 10 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses. C'est extrêmement important.
10 milliards qui sont, par exemple, les économies que
Exactement,
nous devons faire cette
précisément,
année.
C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est les annonces du ministre des Finances très récentes qui a dit quelques semaines après l'adoption du budget, on s'est trompé dans nos prévisions de croissance. Ça, et ça, par exemple, c'est aussi un problème. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Vous ne votez pas un budget, puis quelques semaines après, dire « En fait, on s'est trompé dans notre hypothèse de croissance », alors que tous les organismes, type le Haut Conseil aux Finances Publiques, disaient « Ces hypothèses de croissance sont trop optimistes ». Et quelques jours après, le ministre a dit « Oui, en effet, elles sont trop optimistes ». Non, il aurait fallu voter un budget avec des hypothèses réalistes qui permettaient vraiment de discuter des conséquences des économies.
Qui fait débat notamment à l'Assemblée sur l'adoption d'un projet de loi de finances rectificative.
Exactement.
Que pour l'instant le gouvernement ne souhaite pas. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette ?
Effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on finance avec notre dette ? On ne peut pas ignorer la contrainte de la dette publique, en particulier dans un contexte où les taux d'intérêt ont progressivement réaugmenté. Ouais,
on parle quand même de 84 millions de charges de dette.
La charge de dette, c'est important, ça représente une dépense massive dans le budget de l'État, et ça, on ne peut pas l'ignorer. La question, c'est à quel moment on prend en compte la contrainte de l'endettement public comme une contrainte qui doit être la contrainte principale. Aujourd'hui, on se rend compte, enfin tous les économistes le disent ou presque, la stratégie économique qui est déployée maintenant, c'est-à-dire à un moment où on a la croissance se contracte, les hypothèses de croissance diminuent, il est absolument délétère de réduire les dépenses publiques. Ça, c'est vraiment, on va venir toucher au potentiel de croissance de l'économie. Et ce, de manière d'autant plus importante qu'on sait que, par exemple, la transition écologique et les services publics, et ça, on va en reparler, nécessitent des dépenses publiques massives. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas la bonne stratégie. Ce qu'il faut, c'est un cap, c'est une vision sur le long terme, sur le moyen et le long terme, qui dit, voilà de quoi j'ai besoin, voilà comment je finance, et on peut financer en baissant les dépenses, mais aussi on peut financer en augmentant les recettes, y compris certains impôts.
Alors justement, on va se plonger dans cette question des services publics de manière très concrète, au plus près des communes. Emmanuel Salaberry est maire sans étiquette de Talence, une ville de 42 000 habitants en Gironde, près de Bordeaux. Depuis son fauteuil, qu'il détient depuis 2017 et sa coprésidence de la commission des finances de l'Association des maires de France, il regarde peu à peu ses marges de manœuvre se réduire et sa gymnastique budgétaire devenir inextricable. Il appelle à un débat profond sur ce que doivent être nos services publics et par conséquent leur financement. Nous nous sommes parlé cette semaine.
Comment on voit les finances ? Pas bien. À l'heure où je vous parle, on a encore des éléments d'équilibre, mais on constate depuis 3-4 ans maintenant, depuis l'ensemble des crises que l'on a connues, que la capacité en fait de fonctionner des villes, on parle même pas d'investissement, mais simplement du quotidien, est menacée par beaucoup, beaucoup d'éléments. Et on arrive aujourd'hui à vraiment une forme d'impasse. On n'a jamais eu autant de dépenses qui ont augmenté en même temps, les besoins des gens, l'électricité, l'augmentation des fonctionnaires. Et face à ça, on a des recettes qui ont augmenté, mais pas beaucoup. Donc, c'est même plus un effet ciseau, c'est un peu un effet tronçonneuse, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment dans une position difficile. On essaie justement de ne pas toucher, c'est un peu le dogme, de ne surtout pas toucher à ce service public au sens du nombre de personnes qui interviennent dans le quotidien des gens. Par contre, on peut être amené à prendre des décisions. Je par exemple, dans une ville comme la mienne, on a une piscine qu'on devait ouvrir pendant l'hiver, qu'on n'a pas fait. C'est pas le plus important, mais on a surtout aujourd'hui un élément fort qui est que on est face à une augmentation du besoin de la part des gens, du quotidien, en fait, des fonctionnaires sur le terrain, de la propreté, de la sécurité, du social, et que face à cette demande-là, on devrait être en capacité de recruter et que tout simplement, ben, on ne le fait pas parce qu'on n'a plus les possibilités de le faire aujourd'hui. Pour une ville comme la mienne, l'augmentation de la seule électricité, sans parler de la consommation, c'est 3 millions d'euros de plus en 3 ans. Et nous, on n'a plus aucun mécanisme de protection. Pour vous donner une idée, 3 millions d'euros, c'est comme si jamais demain, je recrutais 100 fonctionnaires en plus. Grosso modo, moi, j'ai fait un calcul. Aujourd'hui, je fais avec 100 euros, deux fois moins qu'il y a 10 ans. Une école, à peu près, c'était 3-4 millions d'euros, une école neuve. Maintenant, c'est 8 millions d'euros. C'est évidemment le poids des normes, mais c'est aussi un besoin dont on entend tous parler aujourd'hui, tous les jours. C'est le fait de pouvoir rénover les bâtiments pour qu'ils soient moins gourmands en énergie. C'est le fait de doter les bâtiments de panneaux solaires. Avec autant d'argent, aujourd'hui, on en fait moins. Quand on dit on a les dotations depuis quasiment 10 ans maintenant, elles n'ont pas suivi le cours de l'inflation, elles ont été diminuées. Quand on dit les villes doivent participer à l'effort national, je voudrais quand même vous rappeler à vos auditeurs que les villes ont participé pour 70 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on a encore une fois recours au levier fiscal et on sait sur qui ça va tomber. Ça va encore tomber chez les propriétaires. Ce sont aussi des gens qui ont hérité, des gens qui ont des petites surfaces et qui nous disent aujourd'hui, monsieur le maire, on peut plus suivre. Ou alors, c'est de venir restreindre l'action du service public. Et on le sait, on va avoir un effet comptable qui va être immédiat sur les services publics, mais qui aura des conséquences excessivement catastrophiques sur le long terme si demain je retire des policiers, des médiateurs, des personnes qui s'occupent de l'aide à domicile, des gens qui s'occupent des cartes d'identité. C'est du quotidien pour les gens. On a l'air comme ça de parler de milliards de flux, etc. Aujourd'hui, derrière ça, c'est une réalité qui font que les villes, notamment, sont le dernier rempart d'humanité, j'ai envie de dire, sur un monde qui fait la part belle à l'informatique, etc. Et donc, ça va effectivement avoir un impact très favorable dans les mois et dans les années qui vont venir. Mais quelle sera la conséquence ? On ne pourra plus continuer d'avoir un État qui, année après année, s'endette. Chaque petit Français, chaque petite Française qui naît en 2024 a au-dessus de sa tête une dette de 50 000 euros. On a l'air comme ça, dans le débat public, pendant quelques jours, toujours de brasser les dizaines de milliards d'euros, etc., à droite, à gauche. Les finances publiques, c'est pas forcément la thématique la plus simple qui soit, mais c'est du concret, quoi. C'est-à-dire, c'est notre indépendance, c'est notre souveraineté, et c'est surtout quelque chose de très précieux. C'est la défense du modèle français, ce modèle social qui fait notre fierté. Et pour cela, on a besoin de recouvrer des marges de manœuvre, parce que sans argent, ça peut pas fonctionner.
Sans argent, ça peut pas fonctionner, nous dit Emmanuel Salaberry, maire sans étiquette de Talence. Il nous dit beaucoup de choses, hein, Lucie Casté. Je rappelle, hein, vous êtes co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. Et ben justement, en termes de services publics, c'est une piscine fermée une partie de l'année. 3 millions d'euros de fluides, c'est-à-dire électricité, gaz, etc. C'est l'équivalent de 100 fonctionnaires. Une école aujourd'hui, c'est 8 millions versus 4 il y a quelques années. Avec 100 euros, je fais deux fois moins qu'il y a 10 ans. Est-ce que c'est juste à cause de l'inflation ?
Là, ce que décrit le maire sur l'augmentation du prix des fluides, en effet, c'est très directement lié à la question de l'inflation qui a frappé la France, mais aussi la zone euro depuis quelques mois l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment le problème. Mais ce qu'il dit, au fond, son message, et je le comprends parfaitement, enfin, je suis d'accord avec ses constats, hein, il dit aujourd'hui, les collectivités territoriales n'ont plus les moyens de répondre aux besoins des habitants en termes de.
Sachant que la taxe d'habitation, par ailleurs, a été supprimée.
Voilà, précisément, c'est là où je voulais venir en fait progressivement, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a diminué nos recettes globalement, l'État a renoncé à des recettes en supprimant des impôts, et plus particulièrement en ce qui concerne les collectivités territoriales, l'État a retiré des leviers fiscaux aux collectivités, donc par exemple les collectivités ne bénéficient plus de la taxe d'habitation, elles ne peuvent plus progressivement de moins en moins lever l'impôt. Aujourd'hui par exemple les communes là n'ont plus que la taxe foncière à leur main, où elles peuvent choisir le taux et à remplacer les impôts par des dotations, et ce sont des montants montants qui sont figés et qui n'évoluent pas, comme le disait le maire qu'on a entendu à l'instant, elles n'évoluent pas en fonction de l'inflation, elles ne sont pas dynamiques. Et donc, progressivement...
J'en profite pour dire que, d'ailleurs, une discussion qui a eu lieu cette semaine entre l'Association des maires de France et le gouvernement sur ces dotations, l'Association des maires de France a claqué la porte de ces échanges.
Et parce que, en fait, les collectivités sont de plus en plus exsangues sur le plan budgétaire et financier, et les départements sont dans une situation qui est extrêmement inquiétante au même titre que les communes, mais dans des domaines différents, parce que, par exemple, on voit les dépenses contraintes des départements exploser, puisque, comme vous le savez, les départements assurent les dépenses sociales. Et donc, ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement vrai, mais ça n'est pas... Il faut le mettre dans un même mouvement, il faut regarder en même temps les dépenses de l'État et les dépenses des collectivités. Par exemple, lorsque vous avez des réductions d'effectifs, les réductions d'effectifs de l'État, elles ont principalement porté sur les administrations financières, notamment les gens qui lèvent l'impôt, qui s'occupent de lever l'impôt. Donc c'est quand même troublant de se dire on va réduire notre capacité à mieux lever l'impôt, à lutter contre la fraude fiscale, etc. Et aussi sur les administrations préfectorales, précisément les administrations qui vont venir accompagner les collectivités territoriales, notamment sur les sujets, par exemple, d'aménagement du territoire, l'accompagnement sur la transition écologique, y compris l'explicitation des normes, l'accompagnement pour faire de la rénovation thermique des bâtiments municipaux, etc. Et l'État, par ailleurs, annonce des coupes dans les dépenses qui sont destinées à cette rénovation thermique, qui vient précisément appuyer les collectivités territoriales dans leur effort pour dépenser moins demain. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, on obère notre capacité collective à faire face aux défis de la transition écologique de demain.
Mais on a entendu aussi Gabriel Attal cette semaine annoncer la mise en place d'une intelligence artificielle qu'il a nommée Albert pour venir en aide aux usagers, notamment dans leur déclaration d'impôt. On a aussi des maisons France Service qui ont été mises en œuvre. L'idée d'un choc de simplification pour débureaucratiser, je reprends les termes là aussi du Premier ministre de la France. Là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience au niveau gouvernemental de la nécessité d'alléger.
Alors, ce que je dirais, moi, c'est que on a l'impression pour l'instant que tout ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement des services publics, qui est absolument nécessaire par ailleurs, je vais y revenir, n'est justifié que par des réductions des dépenses publiques. Je m'explique. Par exemple, on développe considérablement le numérique. On permet aux gens de faire des déclarations, de faire des démarches de manière numérique, ce qui est plutôt utile. Mais, par ailleurs, on réduit les effectifs des gens qui accueillent le public dans les préfectures, dans les maisons France Service, dans les mairies, etc., pour réduire les dépenses. Donc, ce qui nous manque, c'est une vision de ce qu'on veut faire dans l'accueil des gens dans les services publics. En réalité, ce qu'on constate, et c'est pas nous qui le disons, par exemple, le défenseur des droits le rappelle rapport annuel après rapport annuel, le développement du numérique aujourd'hui n'est justifié que par des raisons budgétaires et ne s'est pas accompagné précisément des politiques pour permettre à tout le monde d'accéder au numérique. Et donc, vous avez une fracture qui est en train de se créer en France entre les gens qui sont très à l'aise avec l'outil numérique, qui comprennent toutes les démarches, qui ont un ordinateur, parce qu'il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur, et les autres qui ne savent pas s'en servir et qui sont exclus des services publics de ce fait. Donc c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement essaye d'améliorer le fonctionnement des services publics. Nous, on ne dit pas du tout qu'ils fonctionnent parfaitement et on n'est pas du tout dans une démarche qui est de dire il faut absolument maintenir le statu quo, absolument maintenir ce qui existe aujourd'hui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne semble pas s'accompagner d'une vraie vision de ce que devrait être le service public, de comment il devrait fonctionner, quel devrait être son rapport avec les usagers et aussi avec les agents publics. Comment on met les agents publics en mesure de bien accueillir les gens au guichet, comment on leur permet d'accompagner les gens dans leurs démarches, par exemple de demande de RSA, de demande d'un logement social, etc. Là, il n'y a pas de stratégie, c'est ça qui manque.
Et justement, c'est votre rapport sur l'état des services publics. On entendait Emmanuel Salaberry nous dire que les besoins augmentaient. Est-ce que c'est cela aussi que vous constatez ? Pourquoi nos besoins augmentent ?
Tout à fait. On a essayé de répondre avec notre rapport qui est disponible sur notre site aussi en accès libre. On a essayé d'expliquer le paradoxe que vous mentionnez en tout début d'émission. C'est on voit bien que les dépenses publiques augmentent globalement, mais les services publics, là c'est maintenant de notoriété publique, je dirais, les services publics craquent, les services publics s'effondrent, les services publics se dégradent. On a essayé d'expliquer ce paradoxe. Et en réalité, il nous semble qu'on peut expliquer ce paradoxe par le fait qu'en fait les besoins sociaux, les besoins qui sont adressés aux services publics, ont augmenté beaucoup plus vite ces dernières décennies que les moyens qui leur sont octroyés. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ce qu'on dit. Par exemple, en matière d'éducation, en 70, en 1970, on avait 20% de chaque génération qui avait le bac. Aujourd'hui, c'est 80% d'une classe d'âge. Même plus, en 2020, c'était 86%. Bah ça, évidemment, ça implique qu'on a davantage de besoins en matière de, par exemple, d'éducation supérieure à l'université.
Plus de professeurs.
Plus de professeurs.
Plus d'accompagnants. Voilà,
oui. Voilà, exactement.
Plus de lycées.
Plus de lycées. En matière de santé, on observe un vieillissement de la population et par ailleurs, on observe une explosion des affections de longue durée. Bah ça, ça fait pression sur la médecine de ville et aussi sur l'hôpital et pour l'instant, les moyens ne suivent pas. En matière de transport, on constate que la désindustrialisation et la concentration des emplois dans les métropoles impliquent des besoins de transport accrus parce que le français moyen fait beaucoup plus de kilomètres chaque année que ce qu'il faisait il y a quelques décennies. Par ailleurs, enfin ça c'est des transformations un peu exogènes qui viennent frapper la société, mais il y a aussi des transformations endogènes, des transformations sociales, des attentes sociales qui évoluent. Par exemple, on tolère beaucoup moins, et c'est heureux, les violences contre les femmes. Et pourtant, même si on a fait une grande cause, les moyens de la justice et de la police en matière de violences faites aux femmes n'augmentent pas, ou très peu. Et donc ça crée un fossé entre ce que les gens attendent, ce dont les gens ont besoin, pour se soigner, pour s'éduquer, pour se transporter, est-ce que on met pour répondre à ces besoins.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Alors les débats au sujet des services publics et de leur financement n'ont rien d'une nouveauté dans notre vie politique. Ils sont même récurrents depuis la fin de l'époque des Trente Glorieuses. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Vous avez retrouvé dans les archives plusieurs interventions marquantes sur les missions de l'État et les moyens de les financer.
Oui Nora, et puisque vous évoquez les Trente Glorieuses, il faut débuter cette séquence en évoquant la fin des années Pompidou. En 1972, le choc pétrolier n'a pas encore eu lieu, l'économie est encore au beau fixe, et pourtant déjà le secrétaire d'État en charge de la fonction publique, Philippe Malot, se fait apostropher par un syndicaliste sur l'antenne de l'ORTF au sujet de la dégradation des services publics.
Alors monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'il y a quand même et d'abord un problème de moyens ? Quand on ferme un bureau de poste ou une école, eh bien on a beau mettre des plantes vertes ou une hôtesse. Ne pensez-vous pas qu'accorder la priorité à la rentabilité des administrations, eh bien c'est aller à la détérioration du service public.
Et le mot de rentabilité qui est employé ici fait écho à un rapport rendu au gouvernement en 1967, le rapport de Simon Nora, qui préconisait d'appliquer aux entreprises publiques les règles du marché avec des objectifs d'efficacité et de rentabilité chiffrés. Les archives de ce haut fonctionnaire, donc Simon Nora, sont extrêmement rares. Il s'exprime ici sur le coût des services publics un peu plus tard, en 1980.
Les usagers veulent que toutes les lignes de chemin de fer soient maintenues, que la petite ferme isolée dans la montagne soit raccordée au réseau. Ce sont des revendications parfaitement légitimes. Il faut savoir ce qu'elles coûtent et sur qui ces coûts pèsent. C'est ce genre de questions qu'il est important de discuter, comme on le fait aujourd'hui, avec des chefs d'entreprise de services publics, avec des usagers, avec des sociologues et avec des syndicalistes.
L'aspect humain du service public, vous l'avez oublié ?
Mais c'est l'inverse, c'est de là qu'il faut partir. C'est en fait parce que les gens ont besoin que le service public soit proche d'eux, qu'ils aient en face d'eux des interlocuteurs proches, responsables, avec lesquels ils puissent discuter, négocier, que le service public doit évoluer et cesser d'être un monolithe.
Toutes ces préconisations préexistaient donc à la crise, mais elles sont réellement mises en œuvre à partir de la seconde moitié des années 1970. Le contexte économique change alors radicalement. C'est le Premier ministre Raymond Barre qui l'annonce aux Français en 1976.
La France vit au-dessus de ses moyens. Les revenus augmentent plus vite que la production. Le crédit est distribué d'une manière trop abondante. Les dépenses de l'État excèdent ses recettes et le déficit du budget sera cette année de l'ordre de 15 milliards de francs, ce qui est déjà un progrès par rapport au déficit de l'an dernier de 35 milliards de francs.
Les années suivantes sous l'ère Mitterrand, c'est le diptyque nationalisation-privatisation qui domine la vie des grandes entreprises publiques. Dans la fonction publique proprement dite, le changement majeur intervient bien des années plus tard avec la révision générale des politiques publiques mise en œuvre par le gouvernement de Nicolas Sarkozy.
Services publics mieux rendus, moyens mieux utilisés, et ceux qui continuent de croire que le nombre de fonctionnaires affectés à un ministère ou à une mission est un gage de qualité ont une curieuse notion du service public.
Alors Lucie Casté, on l'entend dans cette séquence, la modernisation de l'action publique est un chantier de longue haleine, mené sous des gouvernements de toutes tendances politiques, de droite comme de gauche. Ma question est simple, ces gouvernements avaient-ils d'autres choix que la rationalisation et les coupes budgétaires dans le contexte des crises économiques à répétition qu'on a connues ces dernières décennies ?
Je pense qu'on a toujours le choix, on peut toujours décider de dépenser moins ou alors de dépenser mieux, d'aller chercher des recettes ou de ne pas s'en priver. Tout ça est une question de priorité politique et de boussole qu'on se donne. Je voudrais revenir sur la question de la rentabilité sur laquelle vous avez insisté. Je pense que c'est intéressant, je pense que c'est un peu provocateur d'utiliser le terme de rentabilité quand on parle des services publics, parce qu'en l'espèce, ça n'a aucun sens d'exiger des services publics qui soient rentables, parce que la rentabilité, ça implique le fait de dégager des bénéfices, ça concerne les entreprises, et c'est logique, c'est leur objectif. Les objectifs de service public, c'est de répondre aux besoins des citoyens. Donc ça n'a pas de sens de parler de rentabilité.
Est-ce qu'on peut toutefois parler de rationalisation ?
On peut
avoir des services publics efficaces.
Exactement, et c'est là où j'allais en venir. On peut tout à fait demander aux services publics d'être davantage efficaces, et je pense qu'on doit leur demander d'être plus efficaces. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont pas suffisamment efficaces, et ce pour plein de raisons, dont une certaine partie qu'on a déjà abordée. L'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est que se focaliser sur le niveau des dépenses publiques, dire ça coûte trop cher, ça n'a aucun sens, parce que c'est extrêmement abstrait. Ça permet pas de rendre compte de la dépense, du niveau de dépenses totales qui sont engagées pour une politique. Puisque, en fait, si c'est pas l'État qui paye, si c'est pas la collectivité qui paye, c'est le citoyen qui paye directement. Et ça, ça veut dire, par exemple, pour votre santé, si c'est pas pris en charge collectivement, vous devez quand même vous soigner et payer de votre poche une assurance privée. Sauf quand vous êtes pauvre et que vous devez renoncer aux soins. Et l'autre point qui est hyper important de dire, c'est on dit toujours le privé c'est plus efficace que le public, mais ça c'est une assertion qui n'est pas du tout démontrée. Il faut vraiment réfléchir à la manière dont on prend en charge nos dépenses et qu'on regarde ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, en matière de santé, toujours aux États-Unis, les dépenses publiques sont très faibles, enfin, plus faibles qu'en France. Elles sont d'ailleurs quand même très élevées, pardon, donc je me contredis. Mais en fait, le citoyen américain paye deux fois plus que le citoyen français pour une espérance de vie nettement moindre. Et c'est aussi pareil en Allemagne. En Allemagne, un Allemand moyen paye 25% de plus par rapport à la France, et ça c'est des chiffres de l'OCDE, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et donc ça veut dire qu'en France on a un service public de la santé par exemple qui pose des problèmes, hein, mais qui est quand même plus efficace et pourtant plus socialisé.
Pour autant, Lucie Cassé, quand on entendait le maire de Talence tout à l'heure nous dire il faut penser à la philosophie aussi de nos services publics, on est quand même le pays de la zone euro à afficher à la fois le plus haut niveau de dépenses publiques, le plus fort taux de prélèvements obligatoires pour des services qui, on le disait, se dégradent tout de même. Est-ce qu'il faut repenser dans cette vision de long terme que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure, ce qui doit être ou pas pris en charge par la nation? On se souvient de l'assertion de Lionel Jospin en 1999 qui disait « l'État ne peut pas tout ». Il y a des pays où justement l'État ne fait pas tout. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est peut-être très français? Comment lancer ce type de débat?
Je pense que vous avez tout à fait raison, ça doit faire l'objet d'un débat démocratique, peut-être un tout petit détour. La même chose, enfin, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le niveau de dépenses publiques, et je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur la question des taux de prélèvements obligatoires, notre fameux taux de PO. On dit toujours, ah oui, la France championne du monde des prélèvements obligatoires. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on finance avec ces prélèvements obligatoires. En réalité, nous, on a un taux de prélèvements obligatoires qui est élevé parce qu'on a choisi de socialiser une bonne partie de nos dépenses, y compris nos dépenses de retraite. La vraie différence, c'est pas tant le niveau de dépenses globale, public plus privé, c'est leur degré de socialisation. Est-ce que les dépenses publiques, est-ce qu'elles sont publiques ou est-ce qu'elles sont privées? Est-ce qu'on met en place des mécanismes de solidarité ou est-ce qu'on n'en met pas en place? Et là, il y a vraiment deux options, et c'est exactement ce que vous venez de dire, et ça doit faire l'objet d'un débat. Or, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'objet du débat, et c'est ça le problème. C'est, est-ce que l'évolution des besoins en matière de services publics doit être prise en charge en commun par des services publics, ou est-ce que ça doit être pris en charge individuellement en recourant au secteur privé, et donc en assumant que ça crée des inégalités dans notre population. Or là, aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de stratégie à cet égard. On ne discute pas entre nous, collectivement, démocratiquement, du modèle que l'on souhaite voir advenir. On dit, oh, d'un coup, il n'y a plus assez d'argent pour parce que notre objectif de croissance a été révisé à la baisse, on n'a plus d'argent, il faut faire des économies. Mais on ne réfléchit pas au modèle de société qu'on veut et au type de service public que l'on souhaite financer.
Alors, j'entends là-dedans que nous aurions donc une vision court-termiste. Après, et en 10 secondes, où est-ce qu'on va chercher ces leviers budgétaires?
Alors les leviers budgétaires, on peut aller les chercher à la fois dans une autre composition de nos dépenses publiques. Par exemple, on voit que l'État dépense à peu près, toutes dépenses confondues, donc y compris des crédits d'impôt, on dépense à peu près 200 milliards d'euros par an pour les entreprises. Évidemment, on ne dit pas qu'il faut couper ces 200 milliards d'euros sèchement, mais ça donne quand même un vivier de dépenses à aller regarder, à aller interroger. Par exemple, le crédit impôt recherche plus le CICE, crédit d'impôt compétitivité, qui a été transformé en allègement de charges pour les entreprises. Il y a plein d'études qui nous disent, en fait, ça marche pas, ça favorise pas vraiment la compétitivité des entreprises et ça ne suscite pas davantage de création d'emplois. Pourtant, c'est 27 milliards d'euros par an.
Ouais, donc ça veut bien dire que peut-être qu'un débat public autour de ces leviers est nécessaire. Merci, Lucie Cassez. Votre rapport sur l'état des services publics, c'est édité par Équateur Documents et c'est en ligne. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à June Loper qui l'a réalisée, à la technique, c'était Jean-Guilain Meige.